Je vous invite à prier. Ô notre Dieu, sans ta parole, nous serions oiseaux sans ailes, puits sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Ô notre Dieu, par ton esprit, que se lève ta parole à travers les mots de la Bible, afin que nous la recevions comme la vie de notre vie. Amen. Nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Or, ce même jour, alors c'est le jour de Pâques, le jour où les femmes ont trouvé le tombeau vide. Or, ce même jour, deux d'entre les disciples se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis... C'est aujourd'hui le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : Que vous êtes stupides ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux qui leur dirent : Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. C'est un long récit, n'est-ce pas ? Et c'est un récit de marche. Le récit d'un chemin, et il ne s'agit pas seulement d'un déplacement entre Jérusalem et Emmaüs, 60 stades, écrit Luc, une bonne dizaine de kilomètres, un peu plus, entre 10 et 12. Ce qui représente une distance à la fois conséquente, 2 heures de marche au moins, mais ce n'est pas insurmontable. Cependant, aller d'un lieu à un autre est une métaphore extrêmement courante, et y compris dans les Écritures, pour signifier un déplacement et un cheminement intérieur. Ce jour de voyage est le jour de Pâques dans l'Évangile selon Luc. Mais pour les deux disciples qui partent, ce n'est pas un bon jour. Ce n'est pas un jour de joie. Ce n'est pas Pâques pour eux. Pas encore. Ce qu'il raconte aux compagnons qui se joint à eux en chemin correspond à l'air sombre avec lequel ils le disent. C'est un parcours de déception. Leur grande espérance a été brisée. Jésus le Nazaréen a été crucifié. Celui dont ils attendaient la rédemption d'Israël est mort sur une croix. L'avenir qu'ils croyaient à portée de main, à portée de jour, a disparu. Et il ne reste plus que cette situation qu'ils espéraient tellement voir transformée. Il ne reste que l'occupation romaine, l'emprise des autorités religieuses et politiques. Rien n'a changé, sauf, en plus, la terrible déception. Et tout ce qu'elle entraîne, ce cortège d'à quoi bon, de ça n'a servi à rien, de c'est fichu, de ils, les ils, vous savez, mais ils sont trop forts. Et puis aussi, mais Dieu n'a rien fait. Où vont-ils sur ce chemin ? Vers Emmaüs, écrit Luc. Pourquoi Emmaüs ? Rien ne permet de croire que c'est leur village et qu'ils sont en train de rentrer chez eux parce que l'aventure est terminée, parce que ce qui les avait soulevés, mis en route une première fois, emmenés à la suite du prophète de Nazareth, s'est évaporé. Emmaüs ne correspond à aucun village connu, à 60 stades de Jérusalem. Il y a une bonne dizaine d'hypothèses sur sa localisation. Mais ce n'est pas un nom inventé par Luc. Il l'a trouvé dans la tradition de la Bible hébraïque. Emmaüs, c'est une des hypothèses, la transcription du nom du lieu où le patriarche Jacob s'était arrêté pour dormir dans sa fuite, loin de son lieu familier et familial, loin de sa mère, loin de son frère Ésaü, qu'il venait de déposséder de la bénédiction de leur père Isaac. En hébreu, ce lieu s'appelait auparavant Luz, Olam, Luz, transcrit en grec Oulamaos, Emmaüs. Alors Emmaüs s'est éloigné. Emmaüs, c'est là où on va quand on veut aller loin. C'est aussi là où l'on se rend loin, comme on peut se sentir loin quand ce en quoi on croyait, ce à quoi on tenait, ce vers quoi on tendait a disparu. C'est une expérience profondément déstabilisante et même douloureuse que celle d'une déception aussi radicale, on pourrait dire une déconstruction impitoyable. Mais c'est là que Luc fait marcher ses deux disciples. Et il a bien raison. Que faire quand l'avenir qu'on espérait s'effondre. Quand l'horizon désiré dans lequel on se projetait est effacé. Alors d'aucuns diraient peut-être, bon, ben, il faut tourner la page, passer à autre chose, rebondissez, soyez résilients. Comme s'il suffisait de le vouloir, de faire un effort. Comment tourner une telle page sans déposer sur la nouvelle page tout un poids d'amertume, ce qui marquerait profondément ce qui serait écrit sur la nouvelle page, et ce serait non pas en fait une nouvelle page, mais une page profondément insérée au passé. L'avenir auquel les deux disciples croyaient a été crucifié avec Jésus. Le Messie qui devait apporter la rédemption à Israël, ce Messie qui devait être glorieux et victorieux, a été tué. L'autre solution, l'autre façon de faire, eh bien, c'est d'en espérer un autre. Bon, celui-ci n'était pas le bon. Il y en aura un autre, un nouveau Messie qui, lui, réalisera avec éclat et force ce qui est attendu. Et ce serait aussi une bonne raison d'aller à Emmaüs. Car Emmaüs, dans le premier livre des Maccabées, c'est le lieu d'une grande victoire inattendue, une grande victoire de Judas Maccabée sur des ennemis très très supérieurs en nombre. Mais troisième possibilité, eh bien c'est que l'incertitude des disciples après la mort de Jésus, cette incertitude quant à l'avenir, même tout proche, soit total, absolu. Et c'est encore une manière de comprendre ce nom de lieu, Emmaüs, puisqu'on ne sait pas à quoi il correspond, à quel endroit le situer. Une incertitude en miroir de celle des deux marcheurs, Cléopas et l'autre, dont on ne connaît pas le nom, ce qui, dans les Écritures, indique que tout lecteur peut s'y reconnaître. Incertitude, ne pas savoir, n'être sûr de rien, sauf que Jésus est mort, que le Messie a été mis en échec. Les deux disciples n'ont pas d'autre certitude que celle-là, que la fin de leur espérance. Parce que ce que les femmes leur ont raconté, ça ne les a pas accrochés. Même d'ailleurs, Luc écrit qu'ils ont pris cela pour des niaiseries de femmes. Elles n'ont pas trouvé le corps au tombeau, mais elles ont vu deux anges qui leur ont annoncé que le crucifié est vivant. Mais tout stupéfiés qu'ils ont été, ça ne les a pas empêchés de s'en aller, de quitter les autres disciples. Ils se contentent de ce que quelques-uns d'entre eux n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Jésus. Incertitude et déception. C'est là qu'ils marchent, arpentant leurs souvenirs passés, leur imaginaire brisé, leur espoir disparu. Et c'est là qu'ils sont rejoints. Sur ce chemin dont ils ne savent pas où ils mènent, parce qu'il n'y a plus d'avenir vers lequel ils pourraient se diriger, à la construction duquel ils pourraient participer. C'est là qu'ils sont rejoints. Parce que cette incertitude permet que du nouveau advienne, sans idée préconçue sur ce que doit être ce qui va advenir. Parce qu'ayant cessé de croire que l'avenir serait comme ils le pensaient, parce qu'ayant été démunis de toute prise ou emprise sur l'avenir, ayant été dépossédés de leur imaginaire sur le Messie et sur le règne à venir, eh bien, ils sont disponibles pour de l'inattendu. C'est le ressuscité qui le rejoint, qu'ils ne reconnaissent pas parce que la résurrection, ce n'est pas la réanimation d'un mort. Ce n'est pas un retour en arrière. De toute manière, ni le présent ni l'avenir ne se situent dans le passé. L'avenir qui est avenir de Dieu ne ressemble jamais à un passé conservé, ce temps malheureusement bien trop fréquenté, parce qu'il semble rassurant, entre déni et peur. Mais quelle illusion! Le ressuscité les rejoint, et cet événement est déployé de trois manières. La première manière tient dans la question que le ressuscité pose aux deux disciples. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Dit comme ça, c'est plutôt une question fermée. La réponse attendue est manifestement oui. Cependant, ça ne suffit pas de répondre oui. Il faut surtout comprendre ce que cela signifie que le Christ devait souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire. Que signifie le titre de Christ, ce qui traduit Messie? Si la transcendance présente en lui le Christ rejoint l'humain dans son quotidien, l'humain quotidien, est-ce pour une ouverture, un nouveau, ou pour la reprise des logiques et des systèmes humains, même portés à leur sommet? Si le règne de Dieu n'est qu'un super royaume, un super empire, sur le modèle de ceux du monde, est-ce vraiment le royaume de Dieu? Et puis pourquoi le Christ devait-il souffrir? À quoi correspond ce devoir? Un plan établi par Dieu de toute éternité pour le salut du monde? La conséquence inévitable de la mise en question par Jésus du pouvoir religieux de Jérusalem? Son adhésion entière et fidèle à sa mission malgré le sort réservé aux prophètes? On le sait, il le savait. Et si le Christ doit souffrir, est-ce parce qu'il manifeste ainsi sa pleine humanité qui ne peut s'exonérer de la souffrance, y compris de la souffrance, de la déception, des illusions déchirées et des espérances détruites? Ou est-ce parce que ce qu'il représente comme Christ, la rencontre de la transcendance et de l'humain, cela crucifie toutes les prétentions de la religion à régler les formes et les modalités de cette rencontre? Et sa gloire, est-ce que c'est une récompense pour la croix, pour être mort, ou une récompense pour sa fidélité? Ou est-elle la vérité de son poids d'être, sa densité d'être, puisqu'en hébreu, le mot gloire signifie ce qui a du poids? Toutes ces questions dans la question posée par Jésus ne sont pas annexes, accessoires. Elle requiert la réflexion et la liberté de chaque disciple, de chacun de nous. Nous pouvons partager ces réflexions. Mais s'y engage la responsabilité de chacun face aux traditions, aux héritages reçus, responsabilité dans l'interprétation des mots, qui est aussi questionnement des certitudes. Et il se peut, il arrive, que des certitudes déjà un peu ébranlé, s'effondre et qu'un autre éclairage fasse apparaître du nouveau. D'ailleurs, les deux disciples le reconnaîtront. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? Nous ne sommes pas quittes de la question posée aux deux disciples avec un seul oui. Sans saisir cette question à bras le corps, et chercher quel sens, au pluriel, donner à la mort de Jésus sur la croix. Un sens pour le présent de ceux qui cherchent ces sens. La deuxième direction, la deuxième manière donnée par Luc à l'événement de la rencontre avec le ressuscité est complètement articulée à la première. C'est donc la lecture des Écritures dans lequel le ressuscité entraîne les deux disciples. En fait, c'est une relecture, car ils les connaissent, mais c'est une relecture qui n'est pas une répétition, mais l'occasion même de déplacement. relire Moïse et les prophètes pour y chercher et trouver ce qui concerne le Christ vivant. Bonne nouvelle, l'Évangile. Et le silence de Luc sur les explications fournies aux deux disciples par le ressuscité, eh bien c'est une exhortation, une invitation à relire nous-mêmes, à ne pas faire l'économie de l'éclairage porté par la croix et la résurrection sur les Écritures hébraïques, avec cette patte humaine dans laquelle l'Ancien Testament nous fait plonger sans concession. Cet éclairage porté sur la diversité des témoignages de foi et des quêtes de Dieu qui se découvrent dans ces Écritures. Et puis, nous lisons nous aussi le Nouveau Testament, Évangiles et Épîtres, dans ce même éclairage de la croix et de la résurrection. Car ce qui concerne le Christ vivant nous concerne. Et lire les Écritures, c'est aussi se lire soi-même, y compris dans la promesse qui nous est faite, dans la vocation à laquelle nous sommes appelés. Luc met en scène cette marche commune pour faire comprendre la dimension existentielle de Pâques pour les disciples. Comme sur le chemin d'Emmaüs, nous marchons parfois sur un chemin commençant dans la déception, dans l'épreuve de l'effondrement d'un imaginaire, l'épreuve d'une incertitude radicale, l'épreuve de l'absence d'avenir quand il ne reste qu'un futur insatisfaisant ou carrément angoissant. Mais ce n'est pas la fin. Dans la lecture des Écritures, nous comprenons ce que révèle le Christ, et c'est que Dieu est toujours du côté de l'humain, c'est que Dieu fait toujours confiance à l'humain. Nous ne cherchons pas dans les Écritures des solutions à nos problèmes, mais nous y rencontrons la figure d'Abraham qui partit sans savoir où il allait, faisant confiance, espérant contre toute espérance. Nous y rencontrons la figure de Marie qui dit oui à l'inouï qui lui est annoncé. Nous y rencontrons la figure de Pierre qui lâche ses filets de pêcheur pour suivre celui qui l'appelle. Et nous comprenons qu'il y a un goût de résurrection dans l'ouverture à l'avenir de Dieu, cet avenir qui vient et qui n'est pas déjà connu, pas déjà prévisible dans sa forme, dans ses détails. Nous comprenons qu'il y a un goût de résurrection dans cette disponibilité sans a priori, cette confiance qui n'exige pas de preuves, cette espérance non de quelque chose de plus ou moins construit, mais espérance parce que Dieu fait confiance et donne vie. Nous comprenons qu'il y a un goût de résurrection dans ce don de vie nouvelle qui est vie vivante, ni incarcérée dans le passé, ni fascinée dans le futur, qu'il soit extraordinaire, aller habiter sur Mars, ou effrayant. Y aura-t-il une terre pour tous les humains ? La troisième dimension de l'événement de la rencontre avec le ressuscité, c'est à Emmaüs, la bénédiction et le pain rompu. Alors les deux disciples reconnaissent qui est leur compagnon de route, leur compagnon de pain. Et vous savez, compagnon, c'est partager le pain ensemble. Ils le reconnaissent, mais aussitôt il disparaît. Bénédiction et pain rompu, il n'y a là rien que de très quotidien, et en même temps, l'évocation de la scène, le signe de la vie donnée, et en même temps, le souvenir du repas que Jésus le Christ partageait avec n'importe qui. Et il y en a beaucoup dans l'évangile de Luc, et de ces repas dans lesquels il manifestait la grâce, l'hospitalité divine. Cette convivialité, signe de reconnaissance mutuelle et inconditionnelle, qui est signe du royaume de Dieu. Tables ouvertes, tables partagées témoignent de l'évangile, de la bonne nouvelle. Par elles, entre autres, Jésus le Christ libéré des règles du temple et de la religion, et ouvrez inconditionnellement l'alliance à toutes et tous. Ainsi Emmaüs peut-il bien être aussi Bethel, ce lieu éloigné appelé auparavant Luz, où Jacob en fuite et endormi rêve de la porte du ciel où l'Éternel lui parle et lui promet d'être avec lui. Emmaüs, comme lieu du pain rompu, comme une parole créatrice partagée, instant de reconnaissance du ressuscité au ras d'un ordinaire qui reprend goût, qui reprend sens, qui reprend vie. Alors les deux disciples se lèvent et ils sont ressuscités. C'est le même verbe en grec. C'est que le Christ ressuscité est toujours ressuscitant. Il est puissance de résurrection. Eux qui s'étaient absentés en chemin vers un Emmaüs on ne sait où, loin de leurs compagnons, sont relevés, réveillés au présent, le véritable présent de leur présence vivante, d'un chemin de déception, de mort. Ils sont passés sur un chemin de vie, rejoints par le flux de la vie vivante à travers le chemin commun, les questions, l'interprétation des Écritures, la bénédiction, la fraction du pain, diverses formes d'une présence réelle et qui peut être reconnue sous d'autres formes encore auxquelles nous ne nous attendons peut-être pas. Sans oublier la disparition, parce qu'on ne met pas la main sur le Christ et parce que c'est de ne pas le voir qui permet de croire en lui. Nous marchons et nous marcherons encore sur des chemins de déception, sur des chemins de crise, crise personnelle ou collective, des chemins d'incertitude où nous avons parfois le sentiment de perdre pied, des chemins d'épreuve. Et nous pourrons y souffler, y murmurer, y crier, y chanter. Reste avec nous, à celui qui est déjà là, ressuscité afin que nous puissions l'être, être réveillés, être relevés et que notre cœur soit brûlant. Amen.